Notre frère Jacques Amico voudrait remettre au Seigneur l'heure d'étude que nous avons ensemble. Pour beaucoup de chrétiens dans la chrétienté d'aujourd'hui, si vous dites prophétique, vous pensez Amos. Surtout dans les plus grandes églises, le terme de prophétique évoque le témoignage courageux face aux puissants du siècle qui se dressent contre les injustices, contre l'exploitation des pauvres, des faibles. Et à coup sûr, c'est une dimension du ministère prophétique selon la Bible. Ce n'est pas la seule dimension, c'est sûr, mais c'est une dimension que celle du rappel des normes de la justice divine. Et quant à cette dimension, on ne trouve sans doute pas de prophète dans toute la Bible qui incarne mieux le zèle prophétique. Amos est par excellence le prophète de la justice divine dans les relations que les hommes ont entre eux, dans la vie sociale en particulier. Nous considérerons le fond de son message, plus en détail surtout, la fois prochaine, Dieu voulant, donc au mois de mai. Aujourd'hui, nous allons davantage situer sa mission, camper le personnage en son époque, mais il fallait que je rappelle déjà pourquoi tant de regards se tournent vers Amos lorsque l'on parle du ministère prophétique. J'aimerais, pour ma part, lui coller le sobriquet suivant. Amos, le prophète rugissant. Il a choisi, comme une sorte de note décisive de tout son ministère, de placer en tête de son livre, au deuxième verset, un verset qu'il reprenait d'ailleurs du jeu de Joël. Nous l'avons vu ensemble lorsque nous avons considéré le livre du prophète Joël. De Sion, l'Éternel rugit. Dieu est implicitement comparé à un lion dont la parole est comme un rugissement. Et le prophète Amos tout spécialement, c'est le prophète qui relaie le rugissement divin. Cette image du lion, elle revient à plusieurs reprises en fait dans le livre du prophète Amos. Peut-être cette préférence a-t-elle été liée pour lui à son expérience de berger. Il nous dit, nous allons le voir plus en détail, qu'il s'occupait de gros et de petits bétails dans la région de Tekoa. Il est l'un des éleveurs de Tekoa, d'après le verset premier. Or, Tekoa se trouve à 18 km au sud de Jérusalem, dans la montagne, à 800-900 km d'altitude, au-dessus de la mer Morte. C'est un peu au sud de Bethléem. C'est la région même où David adolescent, menait paître les troupeaux. Or, vous vous rappelez ce que David atteste lorsqu'il répond à Saül au moment du combat avec Goliath. On lui dit, mais toi, tu es quand même bien jeune pour affronter un géant comme Goliath. Et il dit, quand le l'ours ou le lion venait pour dévorer l'une des brebis dont j'avais la charge, eh bien, avec le bâton, je défendais le bien que j'avais à défendre. Et j'ai réussi à arracher la brebis à la gueule du lion. Il y avait donc, dans ces collines escarpées du sud de Jérusalem, du sud de Bethléem, où se trouvait donc aussi le travail du prophète Amos, des lions. Il avait dû affronter probablement des lions au cours de sa vie. En tout cas, il y revient. Si, donc, au deuxième verset, il évoque la parole de Dieu comme le rugissement du lion, au chapitre 3, il y revient dans un passage qui concerne son ministère, à partir du verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il à terre dans le filet sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il du sol sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on du cor dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Là, le prophète livre en quelque sorte le secret de sa vocation prophétique. Et dès l'introduction, je pense que je peux le faire remarquer. Il emploie toute une série d'illustrations pour montrer qu'il y a des choses qui vont par pair, qui vont ensemble. Si on entend le rugissement du lion, on sait qu'il a attrapé une proie. Si on voit un filet qui tout à coup se met à bouger, un filet qui était tendu comme un piège, c'est qu'il a pris un oiseau. Et ce qui marque l'aveuglement spirituel des hommes de son temps, c'est qu'ils ne mettent pas les choses ensemble. Les malheurs qui arrivent dans une ville, les fléaux qui s'abattent, et puis la parole de l'Éternel, qui est comme le rugissement du lion. Ils devraient comprendre. Ils devraient comprendre que quand c'est un malheur, c'est le malheur annoncé par le prophète, qui vient comme un avertissement ou un châtiment de Dieu. Et ils devraient, lorsqu'ils entendent cette parole, prendre au sérieux ce qu'elle annonce. Il y a un événement qui accompagne. Ce n'est pas simplement une parole en l'air. Mais ils sont bêtes, ils sont fous, ils n'est pas ensemble ce qui va ensemble. Et utilisant ces illustrations, donc, le prophète montre que pour lui, la parole de l'Éternel est comme le rugissement du lion qui tout à coup le remplit et qu'il doit retransmettre. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Il montre comment il a perçu en quelque sorte la parole de Dieu comme ce que le lion divin faisait entendre et qu'il s'est senti alors obligé de le répercuter à ses compatriotes. C'est une image qu'on retrouve encore ailleurs, bien que ici nous ayons les éléments clés quant à la vocation prophétique d'Amos. Au verset 12 dans le même chapitre, il parle encore du lion. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger sauve de la gueule du lion deux pattes et un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les Israélites habitant à Samarie. De nouveau, là, l'Éternel est comparé à un lion lorsqu'il exerce ses jugements. Et il y a beaucoup d'ironie, là, vous avez perçu. Oui, oui, vous allez être sauvés. Oui, vous allez être sauvés comme les deux petits bouts de pattes qui restent et le bout d'oreille quand un lion attrape une brebis. Oui. Voilà ce qui restera. Voilà le salut sur lequel vous comptez confortablement. Hein. Voilà ce qu'il dit à ses compatriotes. Puis encore au chapitre 5 et au verset 19, il parle de l'impossibilité d'échapper au jugement de Dieu. Il en sera, dit-il, comme d'un homme qui fuit devant le lion et que rencontre l'ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent. Oui, vraiment pas possible d'échapper. Les humains de notre temps, on dirait pas de chance. Quoi. Fuit un lion, tombe sur un ours, réussit à échapper à l'ours, tombe sur un serpent. Mais là, c'est évidemment non pas la déveine qui illustre la parole du prophète, mais le fait que l'homme ne peut pas échapper au jugement de Dieu quand Dieu a décidé de le rencontrer. Cette image du lion, donc, qui me permet de montrer en Amos le prophète rugissant, qui retransmet la parole de l'Éternel, est l'une des images caractéristiques. Je voudrais, toujours à titre d'introduction, en signaler une autre qui me semble tout à fait décisive dans le livre d'Amos et qui est aussi en rapport avec les versets introductifs du livre. Ces versets introductifs, ils sont précieux pour nous permettre de lire ensuite le livre du prophète Amos comme il faut. C'est l'image du tremblement de terre. Or, il nous est dit, dans le premier verset, que c'est 2 ans avant le tremblement de terre qu'Amos a commencé de prophétiser. Son époque a été marquée par un tremblement de terre certainement épouvantable, puisque plus de 2 siècles après, on en reparle encore. Le prophète Zacharie, au chapitre 14, évoque ce tremblement de terre, 2 siècles après, grosso modo. Ce qu'il avait marqué dans la mémoire, ça a dû être vraiment quelque chose de terrible. Or, dans le livre d'Amos, on retrouve l'évocation de ce grand tremblement de terre. C'est surtout au chapitre 8 et au chapitre 9 que c'est tout à fait clair, mais je vous montrerai d'autres exemples où sans doute c'est le tremblement de terre aussi qui est l'image d'arrière-plan. 8:8, Dieu parle encore des jugements qu'il va exercer. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne sont-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme la lumière ou comme le Nil. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. La terre devient comme un élément liquide. Vous voyez. Il y a des vagues. La terre, qu'on appelle la terre ferme, cesse d'être ferme. Elle se met tout à coup à bouger, être un élément aussi instable que l'eau du fleuve au moment des grandes crues. Et puis au chapitre 9 et au verset 5, il y revient, le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle s'effondre. Tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le Nil et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Donc, référence très claire ici au tremblement de terre. Et probablement, c'est ce que l'on trouve aussi dans d'autres passages du livre, et je vous l'ai fait remarquer pour que vous soyez en mesure ensuite de lire en pensant. Il y a ces constantes qui marquent toute la prédication d'Amos. Au chapitre 2 et au verset 13, c'est en tout cas une possibilité de traduction. Ce n'est pas celle de la Bible à la Colombe, mais d'après les dictionnaires hébraïques les plus récents que j'ai consultés, non, il faudrait non pas traduire « Voici, je vous écraserai sur place comme écrase un chariot chargé de gerbes », mais « Voici, je ferai vaciller sous vous », littéralement c'est ça en hébreu, c'est « sous vous », comme vacille un chariot chargé de gerbes. Quand vous chargez trop un chariot, il penche, eh bien la terre même sous vous va vaciller. Probablement allusion donc aussi au tremblement de terre dans ce verset, mais il faut traduire, d'autres traductions d'ailleurs sont comme je dis, mais la Bible de la Colombe là n'a pas fait le choix que je pense le meilleur dans la traduction. 3:14 et suivant, le jour où je demanderai compte à Israël de ses transgressions, je lui demanderai compte des autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisées, tomberont à terre, je renverserai la maison d'hiver et la maison d'été, les palais d'ivoire seront ruinés. Probablement, c'est ce qui s'est passé au moment du tremblement de terre. Les belles maisons, tout à coup, renversées. Les chapiteaux, les constructions du temple de Bethel, dont nous allons reparler, détruits. En tout cas, cette image de ruine convient à une association avec le tremblement de terre. 4:11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu bouleversa. Le bouleversement. Au moment de Sodome et Gomorre aussi, ça a dû être éruption volcanique, tremblement de terre à la fois. 5:8. C'est un des versets qui souligne le pouvoir cosmique du Seigneur. Il a fait des Pléiades et Orion. Il change l'ombre de la mort en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. Je soupçonne ici qu'il y a une allusion au raz de marée qui généralement accompagne les tremblements de terre. Il y a dû y avoir, s'il y a eu un tremblement de terre important, une de ces énormes vagues qui balaient une bonne fraction de la côte, et ça a dû marquer aussi, qui appelle les eaux de la mer et qui les répand à la surface de la terre. Je suppose que c'est aussi une allusion au tremblement de terre. 6:11. Voici que l'Éternel donne le désordre, il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. De nouveau cette ruine des villes. Et puis, à mon avis, dans le dernier passage, dans le chapitre 9, au verset 9, voici je donnerai mes ordres et je ferai secouer la maison d'Israël, soit parmi toutes les nations, soit par toutes les nations, comme on est secoué par le crible. Secoué, hein, quand on vit une époque de tremblement de terre, il me semble que c'est assez significatif. Et Ensuite de cela, alors, au verset 11, la promesse sur laquelle se clôt le livre, « Je relèverai la cabane chancelante ou écroulée de David, j'en réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines. » Cette image de la ruine liée au tremblement de terre, elle est aussi ici reprise, mais cette fois comme un tremplin pour une promesse d'espérance. Voilà quelques éléments qui commencent à situer un peu Amos à son époque, mais maintenant il faut être, je dirais, un petit peu plus scolaire, mettre les choses un peu plus systématiquement. Et parlant de la mission d'Amos aujourd'hui, la fois prochaine, donc plutôt du message, parlant de sa mission, je vais d'abord essayer d'en dessiner le cadre. Parole d'Amos, dit le premier verset, l'un des éleveurs de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Jodas, Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Cela nous situe au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans la première partie de ce 8e siècle, un peu après l'époque de Jonas, le prophète que nous avons étudié la dernière fois. Vous vous rappelez que Jonas avait prophétisé sous Jéroboam, roi d'Israël, fils de Joas, roi d'Israël, Jéroboam II, en fait. Il avait prophétisé que son royaume s'agrandirait, d'après le deuxième livre des rois, au chapitre 14. Dans son livre, dans le livre qui porte son nom, il a été envoyé à Ninive, mais d'après le deuxième livre des rois, il avait prophétisé au temps de Jéroboam, et il avait prophétisé plutôt du bien, à propos de ce règne du roi Jéroboam. Donc c'est à cette époque que se situe le prophète Amos. D'après les dates qui paraissent les plus sûres, Ozias a régné de 791, il a été associé comme co-régent jusqu'en 740 avant Jésus-Christ, et Jéroboam II, de 793 à 753 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est la première moitié, en gros, du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ce fut une période d'exceptionnelle sécurité et prospérité pour les deux royaumes d'Israël et de Juda. C'est d'ailleurs aussi pour ça, sans doute, que les rois ont pu avoir des règnes si longs. Ce sont des règnes particulièrement longs, rarement. Règne aussi long a été accordé au royaume de l'Ancien Testament. Ça a été une situation exceptionnelle et je vous explique pourquoi. Je vous dessine très grossièrement la carte de la région. Je simplifie bien entendu, ça c'est la Méditerranée. Vous avez Chypre par ici. Vous avez donc l'Égypte ici avec la mer Rouge, le golfe d'Aqaba. Ça, c'est la frontière de l'Égypte, maintenant il y a le canal de Suez. Donc vous avez la mer Morte, ici, le Jourdain qui coule, là. Donc, Jérusalem, ici, avec le royaume de Juda, et au nord de ce royaume de Juda, où c'est un descendant de David qui règne à l'époque, qui s'appelle Ozias, vous avez le royaume des 10 tribus, au royaume d'Israël, capitale Samarie. La capitale est par là. Le Liban, vous voyez où j'étais donc il y a quelques jours, se trouve un peu au nord. Ce royaume d'Israël avec la Syrie qui se trouve au nord légèrement est. D'ailleurs, elle a aussi ce territoire jusqu'à la mer. Et plus loin, qui correspond à l'Irak aujourd'hui, vous avez l'Assyrie, Assur, l'Assyrie, grande puissance de l'époque. Ça, c'est la Turquie actuelle, par exemple, donc vous repérez, n'est-ce pas? On ne faisait pas de sentiments dans ce temps-là, d'ailleurs. Pratiquement à aucune époque on a fait de sentiments. Quand un pays est fort, il est lui-même prospère, mais il écrase ses voisins. Et c'est très dur pour ses voisins. Et pour Juda et Israël, le poids des puissances voisines, c'est ce qui, dans les moments les plus longs, les plus fréquents de leur histoire, a signifié pauvreté, faiblesse, insécurité, etc., les raids des armées ennemies. Donc, en général, ces deux royaumes étaient faibles et dépouillés de leurs biens lorsque les voisins étaient forts. Mais justement, à la période du 8e siècle avant Jésus-Christ dont je vous parle, il se trouve que les deux grands royaumes proches, le royaume de force moyenne et le royaume très puissant, qui étaient les voisins pour Israël et pour Juda aussi, se sont trouvés affaiblis. À la fin du 9e siècle, ou disons vers 800 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont ravagé le royaume de Syrie, capitale Damas. Ils y ont fait des dégâts épouvantables, ils ont emmené des captifs, ils ont saisi tous les trésors. Et à la suite de cette défaite, que le roi d'Assyrie, qui s'appelait Adad-Nirari III, a imposé au royaume des Syriens, Israël, le petit royaume, a pu souffler. Il s'est même étendu en direction de la Syrie. Il a regagné des villes, il en a pris à son aise. Bien sûr, si les Assyriens eux-mêmes avaient été forts, avaient continué d'être forts, alors c'est eux qui auraient fait peser leurs joues et qui auraient dépouillé Israël des produits de son sol. Mais les Assyriens, à la mort d'Adad-Nirari, ou un peu avant, sont entrés dans une période de troubles, d'anarchie, de guerre aux autres frontières, les frontières des massifs de Lourartou, qui ont fait que les Assyriens eux-mêmes n'ont plus pu peser sur le petit royaume d'Israël. C'est l'époque de la mission de Jonas. Je vous ai dit qu'à l'époque de la mission de Jonas, les Assyriens étaient très réceptifs aux messages de jugement et aux messages de menaces qui leur étaient adressées parce qu'ils avaient eu beaucoup de malheurs. Peste, famine, etc. Ce qui veut dire que pendant plusieurs décennies, le royaume d'Israël, ici au nord, et le royaume de Juda, au sud, ont pu souffler. Ça a été pour eux un temps de prospérité remarquable. Construire des villes, construire des monuments, contrôler les routes commerciales, faire beaucoup de bénéfices. La période a été donc une période faste pour le royaume d'Israël en particulier, car c'est de lui, ce royaume des 10 tribus, la capitale Samarie, la frontière passe à peu près ici, c'est ce royaume-là qui est concerné plus directement, pas seul, mais plus directement, dans la mission d'Amos. Tant de sécurité, tant de prospérité, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné, hélas, la corruption, le luxe, l'accroissement des inégalités sociales. On pourrait croire que quand il n'y a plus de richesses, elles vont se retrouver mieux partagées. C'est le contraire qui s'est produit, et c'est le contraire qui se produit bien souvent. Des gens, alors les trafiquants, les marchands, se sont mis à vivre dans un luxe inouï, qui était tout à fait nouveau dans la vie du royaume d'Israël, ou alors on en avait de vieux souvenirs du temps du royaume de Salomon, mais un luxe prodigieux, mais alors qui ont opprimé avec d'autant plus de cynisme leurs voisins les plus pauvres. Je pense qu'on peut l'expliquer d'ailleurs. Plus quelqu'un vit dans le luxe, à la vie facile, de l'argent, autant qu'il en veut, moins il peut comprendre les problèmes de ceux qui en manquent. Plus ces gens lui paraissent pour une racaille comme des insectes dont il n'a pas besoin de s'occuper, qu'il peut pressurer à sa guise. Le fait même que la richesse de quelques-uns augmente crée un abîme entre eux et leurs compatriotes et anesthésie tout sentiment de solidarité humaine au fond d'eux. Alors, la prospérité, donc, dans ce royaume d'Israël, a entraîné de très graves inégalités, de l'oppression. Et c'est ce que les discours d'Amos dénoncent sans merci. Est-ce que ça a été un temps d'impiété, du coup? Un temps où les lieux de culte ont été désertés, où on ne s'est plus occupé du tout des honneurs dus à la divinité? Pas du tout, pas du tout. Ça arrive que ça se passe comme ça dans les temps de prospérité et de sécurité, mais dans le cas du royaume d'Israël, le culte a lui aussi été florissant. Ont beaucoup de sacrifices, des fêtes, des liturgies somptueuses, mais ce culte s'est trouvé lui aussi corrompu. Corrompu par une association d'orgies, de débauches, même semble-t-il la prostitution sacrée. Vous savez que dans ces religions de l'époque, la prostitution jouait un rôle de culte. Et une sorte de mélange entre des idées païennes et le culte de l'Éternel lui-même. Alors les sanctuaires, les principaux sanctuaires, étaient des lieux de pèlerinage très appréciés, ils s'enrichissaient d'ailleurs pour autant, et le principal d'entre eux c'était celui de Bethel, dont nous avons déjà entendu le nom tout à l'heure, juste pratiquement à la frontière, c'est pas loin de Jérusalem. Bethel gardait le souvenir de la révélation faite à Jacob. Vous vous rappelez que Jacob, en train de s'enfuir, se trouvait près de la ville de Luz, et puis le Seigneur lui a révélé qu'il était présent, qu'il n'était pas seulement là dans le foyer de ses parents, dont il devait maintenant s'enfuir, mais qu'il était présent là aussi. Il lui a donné la vision de l'échelle. Il a dit, ah, alors c'est la maison de Dieu, Bethel. En hébreu, ça veut dire maison de Dieu. Donc ce lieu avait gardé le souvenir de cette révélation faite à Jacob, et il y avait un sanctuaire là. Et les gens, ils faisaient des pèlerinages, c'était à moitié du tourisme, à moitié des dévotions religieuses qu'ils accomplissaient. Et à Bethel en particulier se trouvait un jeune taureau d'or qui recevait l'adoration des fidèles. Ça, c'est le premier roi Jéroboam qui avait eu l'idée de placer un tel taureau pour que les fidèles de l'Éternel puissent venir lui apporter toutes les offrandes. On ne sait pas très bien, c'est pas tout à fait clair s'il était censé représenter l'Éternel lui-même ou la monture de l'Éternel, mais peu importe, ça se confondait en fait dans l'esprit des gens. La figure du jeune taureau, c'est peut-être par dérision qu'on dit le veau dans bien des textes de l'Ancien Testament, pour se moquer de lui. Mais la figure du jeune taureau était une figure très très populaire dans le paganisme de cette époque, dans tout le Moyen-Orient. Le taureau, c'est la force vitale, la force d'engendrer, et il était l'objet donc d'une adoration. Alors, Jéroboam, quand il a coupé son royaume des 10 tribus du royaume de Juda, où se trouvait donc sur le trône un fils de David, s'est dit, si je laisse les Israélites, les gens de ces 10 tribus, aller célébrer le culte de l'Éternel à Jérusalem, comme la loi le prescrit, si pour toutes les fêtes ils montent en pèlerinage 3 fois par an à Jérusalem, je vais rester en quelque sorte sous l'influence du roi de Juda. Ma population, religieusement, dépendra toujours du roi de Juda, puisque c'est sur son territoire, à Jérusalem, que se trouvera le temple et le lieu des pèlerinages. Donc il faut absolument, pour que je réussisse vraiment à édifier un royaume indépendant de Juda, le royaume d'Israël, il faut que j'ai un temple à la place du temple de Jérusalem, pour attirer tous les pèlerinages des Israélites. Je dirais que c'est l'Éternel, mais je vais faire en sorte que ça leur convienne bien, que ça les attire. Alors il a pris la forme du jeune taureau et il en a fait une statue et il l'a installée dans un temple qu'il a fait construit à Bethel, un lieu qui était déjà célèbre puisque le patriarche Jacob y avait eu le fameux songe que j'ai dit tout à l'heure. Et il a placé ça donc juste à la frontière pour que les gens d'Israël ne risque pas d'aller à Jérusalem. Ils aillent à Bethel. Il en a fait un autre tout au nord, Adam aussi. Ah, il avait bien calculé son coup, oui. Alors, le culte, au temps de Jéroboam Ier, s'est trouvé ainsi profondément corrompu. Dieu traité à la manière de ces dieux païens, représentés par une idole, plus ou moins confondue avec une statue, et tout ce qui était associé au symbolisme du taureau s'est trouvé aussi valorisé. Et donc le culte s'est trouvé corrompu dès Jéroboam Ier. Mais avec Jéroboam II, avec la sécurité, la prospérité, ça a été encore pire. La paganisation du culte de l'Éternel a encore augmenté. Et au chapitre 8, il est clair que d'autres divinités même ont été associées à l'Éternel. Au verset 14, à la fin du chapitre 8, il est question de ceux qui jurent par... Alors la Bible, la Colombe dit le sacrilège de Samarie, mais on est à peu près sûr que c'est un jeu de mots sur le nom de la déesse Ashima. Ashima, en fait, c'est Ashmat, c'est une honte, un sacrilège. Mais c'était une déesse, Ashima. Ceux qui disent « Vive ton Dieu dans, vive le rite ou le bien-aimé de Beersheba ». Il y avait dans ces sanctuaires des associations. Alors, il est possible que des gens soient dit « Mais c'est le même Dieu, un autre nom, mais c'est le même Dieu », etc. Ils raisonnaient de cette façon assez facilement, comme bien des gens aujourd'hui. Qu'importe, musulman, hindouiste, chrétien, c'est le même Dieu, disent les gens. C'est comme ça aussi que dans l'Ancien Testament, bien des Israélites s'arrangeaient lorsque des cultes d'idoles d'origine païenne s'infiltraient. Ils ne voyaient pas forcément là une opposition avec le culte de l'Éternel. Ça pouvait très bien aller ensemble. Donc il y a eu, à cette époque, luxe, prospérité, corruption des mœurs et en particulier... injustice sociale à grande échelle, corruption du culte qui s'est trouvé fortement paganisé. Mais ça n'a pas été le seul élément de l'époque qui l'a marqué. J'ai parlé du tremblement de terre aussi. Le tremblement de terre a été à coup sûr comme un avertissement du Seigneur. Nous ne pouvons pas savoir si au chapitre 8 et au chapitre 9, Amos a prédit ce tremblement de terre, ou bien si après le tremblement de terre, il revient avec la même image, le même thème pour annoncer des jugements futurs. C'est pas assez précis pour que nous puissions en décider, mais en tout cas, le tremblement de terre a été perçu, et Amos l'a fait ressortir comme tel, comme un avertissement de la part de Dieu, comme la vibration que le rugissement du lion provoque. Il y a eu aussi une éclipse. Une éclipse qui a dû impressionner les gens. Elle est assez clairement associée au tremblement de terre. Alors on peut penser que ça n'a pas été très loin dans le temps, au chapitre 8 et au verset 9. Il arrivera en ce jour-là, et ça vient de parler du tremblement de terre, oracle du Seigneur l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein jour. Alors ça c'est intéressant. On ne peut pas retrouver aujourd'hui la date exacte du tremblement de terre. Mais on peut retrouver par calcul, les astronomes en sont capables, la date exacte de l'éclipse. Et on sait qu'en effet, elle a eu lieu en 763 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un élément qui aussi a eu valeur de signe, de symbole de la part de l'Éternel, qui a marqué l'époque d'Amos et qui nous permet de dater son ministère. 763, donc peut-être a-t-il commencé en 765, peut-être en 760, enfin c'est cette zone-là de l'histoire d'Israël qui est en cause dans le ministère de ce prophète. Il y a un verset au chapitre 6, verset 2, qui est pris par plusieurs, moi je ne voudrais pas trop me commettre à ce propos, mais qui est pris par plusieurs comme l'indication qu'Amos a encore prophétisé nettement plus tard. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la Grande, descendez à Gath des Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? On interprète cela très couramment de la destruction de Calné par les Assyriens en 738 avant Jésus-Christ. À partir de 745, un roi nouveau est monté sur le trône de l'Assyrie, des Assyriens, Tiglath-Pileser, autrement appelé aussi Poul, et lui alors il a repris les choses en main. Après les 40 années d'éclipse du pouvoir assyrien, Tiglath-Pileser a à nouveau maté les rébellions, réussi à se forger un instrument militaire extrêmement puissant, et alors en peu d'années il est revenu dans la région et il a commencé à remettre au pas ceux qui avaient pris leur indépendance et pris leurs aises. Et d'après donc au moins certains commentateurs, en 738 il aurait ravagé la ville de Calné, et ce serait à cet événement que ferait allusion le prophète. Si c'est bien ça, ça voudrait dire que ce passage a été écrit donc nettement plus tard que le ministère d'Amos a pu descendre jusque vers 735 peut-être, à l'époque donc où Ésaïe a commencé. Nous parlerons, Dieu voulant, plus tard, nettement plus tard, l'année prochaine, si cela continue, d'Ésaïe. Vous voyez donc de quelle façon nous pouvons situer le ministère d'Amos. Maintenant alors, sa personnalité et sa vocation. Dans un affrontement dramatique, dont l'image se grave aisément dans la mémoire, au chapitre 7, Amos nous en dit plus sur son état intérieur et sur sa vocation. Il est envoyé à Bethel par Dieu pour prêcher ce message de répréhension et de jugement que nous avons évoqué. Et en particulier un message d'après le chapitre 7, verset 9, concernant le roi lui-même, Jéroboam II. Je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors, le grand prêtre du sanctuaire de Bethel, le haut fonctionnaire religieux du roi qui est en charge de tout ce qui se passe à Bethel, c'est un personnage important, il ne peut quand même pas rester inerte devant ce prophète qui dit des choses si subversives. Et d'abord, il affecte de le prendre par le mépris. Il se dit, si je lui fais trop de publicité, peut-être, ça va l'avantager. Alors, il prend ça de très très haut. Quand on lui rapporte ce que fait Amos, il dit à Amos, « Visionnaire, va-t'en, enfuis-toi dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. » Il reconnaît que c'est un citoyen du royaume de Juda. Et il lui dit, bon, retourne chez toi. Et il suggère dans sa manière de parler que c'est pour de l'argent qu'Amos prophétise. Il devait y avoir des bandes de plus ou moins prophètes qui prétendaient avoir des oracles ou répondre à des consultations moyennant finances. Et donc, il essaye de confondre Amos avec ses prophètes professionnels, dont certains pouvaient être authentiques, mais dont beaucoup devaient être simplement des charlatans, qui disaient ce, un peu comme les diseurs ou diseuses de Bonaventure, qui disaient ce qu'ils prévoyaient devoir plaire à leurs interlocuteurs pour se faire grassement payer. Alors, Amotia, donc, dit, allez, si tu as besoin de gagner ton pain, va dans ton pays pour le faire. Il prend ça de très haut. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Et regarde un peu où tu es. Et alors Amos répondit à Amatia, « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis bouvier et je cultive les sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas sur Israël et ne bavarde pas sur la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ta terre sera partagée au cordeau, toi tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. Alors il conclut, je dis juste un mot à ce propos, il conclut par un oracle de jugement personnalisé à l'égard de ce haut fonctionnaire qui est tellement plein de morgue et tellement sûr de lui et de la gloire du royaume d'Israël, dont il a une parcelle lui-même, Il lui dit, le jugement va venir. Le jugement qu'en fait les Assyriens vont exercer sur ce royaume d'Israël. Et lorsque l'armée assyrienne va déferler sur le petit royaume d'Israël, bon, la population sera emmenée captive. Ils vont partager au cordeau les terres des propriétaires, les terres de cet Amatsia, eh bien, les conquérants vont se les partager. Sa femme sera tellement démunie de tout qu'elle sera réduite à se prostituer dans la ville pour pouvoir subsister. Voilà le sort qui attend cette famille. Voilà l'oracle personnalisé pour celui qui a eu l'audace de se dresser contre le vrai témoin de Dieu. Mais avant, donc, il parle de son envoi en mission. Il dit « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète ». Certains veulent traduire « Je n'étais ni prophète », mais ça ne change pas grand-chose, en fait. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'est pas prophète professionnel. Il y avait des prophètes professionnels, il y avait des écoles de prophètes, en quelque sorte, des confréries. On voit ça dans les livres des Juges, déjà, et de Samuel, surtout. Et apparemment, même de père en fils, ça se transmettait comme une sorte de profession. Et Amos dit, moi je ne suis pas de cela. Si je ne prophétise, c'est donc pas pour gagner ma vie. Je suis bouvier ou berger, mais ça suggère du gros bétail. Mais il avait aussi du petit bétail, car il emploie un mot qui évoque le petit bétail lorsqu'il dit, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau. On pourrait traduire derrière les brebis. Donc il avait des troupeaux de gros et de petits bétail, des vaches, des moutons, des chèvres sans doute, et en plus cultivateur de sycomores. On ne sait pas de manière absolument certaine comment traduire le verbe qui est employé là dans l'hébreu, c'est un verbe très, très rare. Certains prétendent que c'est inciseur de sycomores, qu'il était technicien en quelque sorte de ce qui est nécessaire pour que les figues du sycomore viennent à maturité et soient comestibles. Le sycomore porte des fruits, si on les laisse simplement comme ça, c'est pas mangeable. Mais si, au bon moment, on fait une petite incision, on coupe juste le bord, alors elles viennent à mûrir exactement comme il faut pour pouvoir être consommées. Alors, certains pensent qu'il faisait ça. C'était une part de son travail. Mais on n'est pas tout à fait sûr, c'est pour ça que la Bible à la Colombe a choisi un mot un peu plus neutre, cultivateur de sycomores. Est-ce qu'il était pauvre, un pauvre berger, louant ses services? Est-ce qu'il était propriétaire de ses troupeaux? On ne sait pas vraiment. La plupart des commentateurs pensent qu'il était quand même propriétaire, que c'était un homme de quelque avoir et poids social à Tekoa, puisque c'est à Tekoa qu'il habitait, donc au sud de Jérusalem, à peu près par là. Il y a même un commentateur qui pense qu'il pouvait être un régisseur des domaines du roi, mais ça c'est un peu de l'imagination, il n'y a pas de preuve du tout allant dans ce sens. C'était donc un non-professionnel, et Dieu me semble avoir montré sa capacité d'initiative de deux façons en l'envoyant en mission. Il prend un non-prophète pour qu'il prophétise. Dieu ne se laisse pas, en quelque sorte, contraindre par les ordres établis par les humains. Il peut parfois les suivre, mais il se plaît aussi à montrer sa liberté. Et d'autre part, il envoie quelqu'un du sud dans la région nord. Il prend un citoyen du royaume de Juda pour parler au royaume du nord. Là encore, Dieu montre sa liberté. Le plus souvent, il envoie des nordistes aux nordistes et des sudistes aux sudistes. Mais en l'occurrence, il a pris un homme de Juda. Donc, liberté de Dieu qui sait surprendre. Mais en même temps, il a pris quelqu'un, c'est me semble-t-il très clair, qui était apte à remplir son ministère, bien sûr, par l'assistance du Saint-Esprit, mais avec des aptitudes très remarquables. Et parmi les qualités que démontre Amos dans son livre, il y a d'abord une excellente connaissance de l'histoire biblique, et aussi même de l'actualité de son temps. Il y a des tas d'allusions aux histoires des patriarches, Jacob, à l'Exode, à toute l'histoire, et à une époque où il n'y avait quand même pas beaucoup de livres, ça montre qu'il avait travaillé. C'était un homme cultivé en matière biblique, ce qui existait de son temps. Ensuite, on voit qu'il était très, très gymnastiqué quant à l'usage du langage. Il avait sans doute appris aux écoles des sages à jouer des mots, à les agencer d'une manière percutante. C'est un maître à ce propos. C'est vraiment frappant. Et on pense d'autant plus facilement aux sages que dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, il est question d'une femme sage de Tekoa. De Tekoa, précisément. Vous vous rappelez que Joab, lorsqu'il a essayé d'obtenir un revirement d'attitude de David à l'égard d'Absalom, son fils, qui avait mérité la colère du roi David, a loué les services d'une femme qui devait avoir une telle réputation d'astuce, de discours persuasif, d'art dans le plaidoyer, une avocate super célèbre, une soprane du barreau, si on peut dire ce genre de choses, qu'il a été chercher cette femme, elle avait une telle réputation de sagesse, c'est-à-dire qui était une experte tellement habile et tellement brillante, de Tekoa. Ce village de Tekoa avait déjà été marqué longtemps avant par une réputation de quelqu'un de très, très habile. Alors je crois qu'on peut mettre les choses ensemble. Amos se montre lui aussi très sage au sens global que la Bible donne souvent à ce terme, apte à se servir de tous les moyens de la façon la plus efficace. Et je voudrais vous faire remarquer tout spécialement sa manière dans les deux premiers chapitres. Dans les deux premiers chapitres, c'est un message de jugement qu'il adresse, mais lui qui parle aux Israélites, au royaume d'Israël, il attend d'avoir parlé du jugement s'abattant sur sept autres nations avant de parler du jugement qui va s'abattre sur Israël. Il ménage ses effets, il prépare, c'est un peu comme la buse qui tourne dans le ciel avant de s'abattre sur sa proie. Le jugement tourne autour d'Israël et puis finit par s'abattre sur Israël. Alors chaque fois, il emploie les mêmes formules. Ça devient presque incantatoire à cause de trois de crimes de Damas, puis de Gaza, puis etc. Et même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, etc. À cause de trois et même de quatre, la coupe est pleine, elle déborde de l'iniquité qui attire le jugement. Et c'est une technique des sages d'utiliser ces éléments numériques. Vous avez à la fin des proverbes aussi, des proverbes numériques, comme on les appelle, qui utilisent cette technique. Et alors c'est très intéressant de voir comment, utilisant cette technique, il choisit les adversaires. Le premier, c'est la Syrie, à cause de trois crimes de Damas. Le jugement va tomber sur la Syrie. Au nord-est, donc, pour Israël. Ensuite, deuxième nation, à cause de trois crimes de Gaza et même de quatre. Cette fois, ce sont les Philistins, la zone de Gaza au sud-ouest. Donc, nord-est, sud-est, Syrie, Philistins. Puis, ensuite, à cause de trois crimes de Tyr, même de quatre. Cette fois, c'est le nord, mais le nord-ouest. Tyr. Puis, quatrième nation, à cause de trois crimes d'Édom. Cette fois, c'est le sud-est. Édom est là. Vous voyez comment, c'est comme tout est calculé, à cause de trois crimes d'Édom. Puis ensuite, alors, le jugement remonte, ce sont les Ammonites. La Transjordanie actuelle. Amman, la capitale du roi Hussein, c'est Ammon, c'est les Ammonites, et Amman, c'est le même mot, hein, c'est la continuité par rapport à ce qui est en cause dans les Ammonites. Et puis ensuite, on repart vers le sud avec Moab, à cause de trois crimes de Moab. Après avoir zigzagué alentour, voyez, puis Juda. Et ça, c'est une grande sagesse d'avoir parlé du jugement contre son propre peuple avant de parler du jugement qu'il annonce pour le peuple voisin, parent d'ailleurs. Et puis finalement, c'est le jugement qui s'abat donc sur Israël. Vous voyez comment le jugement tourne, se rapproche, rapproche. Et on peut observer en plus que ces peuples sont des peuples de plus en plus proches par le sang d'Israël. Les Syriens, les Philistins, les Tyriens n'ont pas de lien de sang. Les trois premiers, ce sont des peuples voisins, mais qui ne sont pas des peuples liés par familialement dans la généalogie à Israël. Mais ensuite, les trois autres, Édom, Ammon et Moab, sont des peuples apparentés. Édom, c'est Ésaü, c'est le frère de Jacob. Ammon et Moab sont issus de Lot, comme l'histoire de la Genèse nous le rappelle. Donc, c'est la parenté. Et puis finalement, c'est Juda, le peuple frère. Les 12 tribus sont son frère. Donc, vous voyez, le jugement se rapproche aussi du point de vue du lien familial. Vous voyez comme tout est calculé, tout est maîtrisé. Il y a l'ironie qu'il utilise, il y a des images. Nous aurons à en reparler encore, mais maintenant j'en viens aux leçons qui me semblent à tirer pour nous de cette mission du prophète Amos, ce que nous en avons vu jusqu'à ce moment. Il me semble que nous pouvons noter de nombreux points de contact entre la situation d'Amos et celle de notre fin de deuxième millénaire après Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des dissemblances aussi. Je ne veux pas dire que notre situation soit exactement la même que celle d'Israël au temps de Jéroboam II, mais quand même, je crois que nous pouvons dire que la prospérité, l'élévation du niveau de vie, c'est une caractéristique de notre époque, précisément de la tranche de 40 ans dont nous avons bénéficié en Europe occidentale. Jamais, jamais il n'y a eu une telle abondance des biens matériels. C'est une prospérité sans précédent, au point qu'on considérerait comme une catastrophe majeure, simplement si on revenait au produit national brut d'il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, bon, on n'avait pas l'impression d'être si pauvre. Eh bien, si on retombait à cela, mais tout le monde considérerait que c'est la catastrophe. Nous sommes dans un temps de grande prospérité, et nous n'avons pas eu de guerre chez nous, en tout cas depuis aussi plus de 40 ans, ce qui est une nouveauté dans l'histoire européenne, si on considère bien des siècles, avec une désagrégation de la grande puissance qui menaçait, qui faisait peur. On pourrait comparer ça à l'éclipse de l'Assyrie à l'époque de Jéroboam II. Donc, vous voyez, il y a des traits communs. Corruption, je crois que ce n'est pas la peine que je développe. On en a assez parlé dans tous les médias ces derniers temps. Inégalité, là je trouve que c'est très difficile de se faire un jugement sobre sur la situation présente. En un sens, notre société est très égalitaire. Et il y a un nivellement des manières de vivre, et si on compare au XIXe siècle en tout cas, un resserrement de l'éventail des revenus, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis, là je n'arrive pas à tirer un bilan vraiment très rigoureux, mais en même temps, il me semble qu'on peut dire que la misère prend un caractère plus misérable, plus avilissant que peut-être jamais. Qu'il y a des couches de population qui souffrent d'une déshumanisation, comme il me semble que ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Il me semble, bon, c'est difficile d'être objectif sur un tel point, mais il me semble qu'il y a deux causes pour cela, malgré l'abondance des biens matériels, qui est extraordinaire. Il y a le fait des atteintes à l'environnement. Maintenant, pouvoir se baigner dans une eau propre, mais c'est un super luxe. Alors qu'autrefois, même des gens qui n'avaient pas le sou pouvaient en profiter. Il y a maintenant des privilégiés seulement qui peuvent avoir leur petit coin de plage réservé, et encore, ils peuvent encore avoir des flaques de mazout qui viennent souiller leur petite plage réservée. Alors il faudra que ce soit plutôt leur piscine particulière. Et, et des joies de jouissance de la nature telle que Dieu l'avait gardée et l'homme préservé, comme il me semble qu'il y a quelques décennies tout le monde pouvait en avoir, sont devenus beaucoup plus rares et difficiles. Donc ça peut expliquer un aspect de misère plus misérable quand on est dans certaines banlieues. Un univers de béton, sale, des pneus, des plaques de plastique, c'est horrible, il n'avait pas ça autrefois. Donc c'est un aspect de misère, d'inégalité aujourd'hui, me semble-t-il. Le deuxième aspect, c'est l'aspect culturel. En raison, me semble-t-il, surtout des médias, de la télévision, il semble bien, des structures sociales qui se disloquent, qui se désagrègent, il semble bien qu'il y ait un appauvrissement de la vie culturelle, qu'il y ait des couches de la population pratiquement analphabètes, alors même quand elles ont été à l'école, on ne lit pas du tout, le vocabulaire est beaucoup plus limité. Autrefois, dans les vieux terroirs de terres paysannes, il y avait une richesse dans les dialectes locaux, il y avait une vie de qualité des artisans qui aimaient leur travail, etc. Et il me semble que lorsqu'on voit les bandes de jeunes dans les banlieues tournant autour de quelques tubes de rock et rien de plus, on dit une pauvreté culturelle. Donc, inégalité aussi, me semble-t-il, aujourd'hui. Donc un point de comparaison. Culte adultéré, corrompu, à coup sûr. Il y a eu un abandon du culte, mais il y a plutôt un retour ces derniers temps, et dans certains pays d'Europe occidentale, certains retours, et en Amérique, affluence dans les églises, mais c'est un culte qui me semble ressembler au culte luxueux d'Israël, à l'époque d'Amos, où c'est une figure de Dieu arrangée selon les goûts du public aujourd'hui, et non pas le Dieu de la Bible qui est vraiment servi, honoré. Une religion qui se conforme aux valeurs dominantes de la société. Une religion qui va peut-être approuver l'avortement, mais permettre n'importe quelle forme de non-mariage. Ça existe parmi les gens religieux. Ben, vous savez bien qu'il y a même des églises d'homosexuels, hein. Ça, ce culte adultéré, corrompu, ça existe aussi aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des prophètes de profession qui font ça pour de l'argent, là aussi, hein, on a assez parlé des scandales de certains télévangélistes qui ramassent beaucoup d'argent. Donc, situation qui peut se comparer sur bien des points, au moins, à celle d'Amos. Alors dans cette situation, qu'avons-nous à nous rappeler d'abord, me semble d'abord, la liberté de Dieu, qui suscite des serviteurs, parfois là où on ne les attend pas, venant de coins où on n'aurait pas pensé qu'un prophète surgisse, qui arrive de loin, qui professionnellement avait une autre orientation jusque-là, mais que Dieu, tout à coup, fait rugir en son nom. Il me semble que ça, c'est la deuxième grande leçon que nous pouvons retirer. Notre situation ressemble à celle du temps d'Amos, mais nous pouvons regarder à Dieu pour qu'il suscite, comme au temps d'Amos, un vrai prophète qui transmette courageusement sa parole. Alors, si Dieu en suscite, que nous sachions l'écouter et le reconnaître et ne pas faire comme Amatsia, d'une part, et si Dieu veut nous susciter, que nous ayons le courage de répondre comme Amos, parce qu'il lui a fallu du courage, pour monter de Tekoa, du renoncement quant à sa carrière professionnelle, et du courage pour affronter Amatsia, affronter les grands d'Israël. Du courage et aussi une formation, connaissance de la Bible, connaissance du moyen de toucher ses concitoyens. Cela aussi me semble pouvoir être exemplaire pour nous. Alors, la fois prochaine, nous essaierons de considérer davantage les grands points du message d'Amos. Je ne sais pas s'il y a, dans 2-3 minutes, quelques questions. Le livre d'Amos n'étant pas donc entièrement étudié, C'est surtout la fois prochaine qu'il pourra y avoir des questions portant sur le message, mais s'il y en a une ou deux maintenant sur ce que j'ai dit, je veux bien essayer d'y répondre. Oui, oui, Madame Orcade. Pas à ma connaissance, et même s'ils le trouvaient, s'ils ne pourraient pas le dater à l'année près. Lorsque les archéologues établissent des dates, donc ce sont des époques quand même. Donc ce serait l'époque de Jéroboam II, mais ils ne pourraient pas nous donner beaucoup plus de précisions. Mais à ma connaissance, on n'a pas repéré ce qui pourrait être attribué très précisément au tremblement de terre. À ma connaissance, hein, mais je peux simplement ignorer quelque chose qui aurait été découvert. Oui, Monsieur Berger.
Le tremblement de terre, c'est la révision du tremblement de terre, où il y a cette faille.
Oui, oui.
Et quand on a visité Israël, on voit des traces de tremblements de terre très anciens qui existent parmi les monuments qui existent encore aujourd'hui.
Oui, oui, Monsieur Berger donc, nous rappelle que c'est une zone de tremblement de terre, il y a une grande faille qui court le long d'Israël et vers le nord. C'est cette faille aussi qui a suscité les tremblements de terre d'Arménie et de Turquie de ces dernières années. Ça, c'est sûr, oui, oui. Oui, monsieur Dieu-Juste. Oui, 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 je pense que la liberté de Dieu étant absolue, elle est souveraine. Il décide comme le Seigneur. J'ai employé le mot de liberté parce que c'était en contraste avec ce qu'on attendait. Alors là, c'est pour ça que j'ai employé le mot de liberté, mais bien sûr, c'est une liberté souveraine. Voilà, merci bien. Donc, je crois que nous avons juste tenu notre horaire. Mm-hmm.